vais juste prier avant de voir Psaume 22 ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble, des frères et sœurs. Merci pour les amis qui sont là aussi, qui sont présents. Et quel privilège, Seigneur, de nous donner cette famille spirituelle. Merci pour le jour du Seigneur, ce jour merveilleux qui nous permet d'abord de nous retrouver ensemble, mais surtout de nous rappeler d'une manière particulière que ta mort pour nous était suffisante parce que tu n'es pas resté dans ton tombeau, mais tu es sorti, tu es vivant aujourd'hui. Tu nous donnes la preuve que ce que tu as fait était suffisant. C'est la seule manière pour nous réconcilier avec toi-même. Et Seigneur, en étudiant ce psaume 22, nous sommes rappelés davantage et nous sommes émerveillés de nous rappeler que les détails de ta crucifixion, de ta résurrection ont été prophétisés des centaines d'années, voire 1000 ans avant même ta naissance. Et Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Est-ce que grâce à ta résurrection, tu es le premier-né d'entre les morts. Et c'est grâce à cela que nous avons la vie spirituelle, que nous pouvons avoir la vie spirituelle, la vie qui fait de nous des chrétiens, la vie qui fait de cette église, de chaque église chrétienne une église, n'est rien d'autre que la vie de celui qui est la tête, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et Seigneur, nous voulons te prier de nous faire du bien, Seigneur, qu'à la fin de ce culte, que nous puissions tous dire avec les deux disciples, que nos cœurs brûlent au-dedans de nous, parce que ta parole, grâce à ce que ta parole nous révèle au sujet de ta personne et ton œuvre. Et nous prions, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit parmi nous ce matin, sanctifie ton peuple, sauve, Seigneur, quiconque est toujours à l'extérieur de ton royaume, et pitié, nous te prions, parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors le message de ce matin est basé sur psaume 22, en particulier verset 28 de ce psaume. Si vous voulez un titre au message de ce matin, je peux vous suggérer le titre suivant, l'avenir du christianisme. L'avenir du christianisme. Et je me suis demandé comment puis-je commencer ce message. Et je me suis dit, j'aimerais bien, si je le pouvais, si j'avais la capacité de le faire, de parler à chaque personne dans le monde, si je pouvais le faire, et supplier chaque personne de faire une chose une fois par an. Une chose une fois par an. Et si chaque personne dans ce monde puisse prendre du temps une fois par an et se poser des questions telles que « Qui suis-je ?» Et « Pourquoi suis-je dans ce monde ?» Quelle est la raison de mon existence? Suis-je tout simplement le fruit du hasard? Suis-je tout simplement la matière couverte de peau? Mais alors, que vaut la vie? Et si seulement chaque personne dans ce monde puisse prendre du temps, une fois par an, et se poser ce genre de questions? Mais le problème, c'est que les gens, la grande majorité des gens ne le font pas. Et la grande majorité ne vont pas le faire. Et franchement, c'est décourageant. Ça pourrait être décourageant que la grande majorité des gens, des hommes et des femmes et des jeunes, ne le feront pas, ne prendraient pas, même pas une heure par an pour se poser ce genre de questions. Et pour ceux d'entre nous qui sommes, par la grâce de Dieu, des chrétiens sauvés, eh bien, ceci pourrait être profondément décourageant, d'accord? Des membres de ta famille qui ne prennent même pas le temps de se poser ce genre de questions. Et c'est facile de se décourager. Les gens autour de nous ne sont pas forcément intéressés par ce genre de questions. Et souvent, nous arrivons dans notre vie chrétienne, dans notre ministère chrétien, et nous nous demandons si les gens autour de nous vont vraiment se convertir. Vont vraiment s'intéresser à ces choses. Si tu n'as jamais eu ce genre de sentiment comme moi, franchement, tu es un cas exceptionnel. D'accord? Et je pense que les pasteurs de l'Église aimeraient bien avoir un mot avec toi ce matin. Je pense que nous avons tous eu ce moment de découragement et on se demande, est-ce que vraiment les gens vont s'intéresser? Est-ce que le christianisme, surtout dans ce pays, va continuer? Est-ce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ va continuer? Est-ce qu'il y a un avenir pour le christianisme, vu la dureté du cœur des gens autour de nous. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si c'est ce sentiment que tu as, frères et sœurs, j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Parce que Dieu ne s'intéresse pas à notre sanctification. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que nous vivions dans la lumière comme lui est lumière. Mais Dieu s'intéresse à notre réconfort aussi. Dieu ne veut pas que nous vivions notre vie chrétienne dans le découragement et dans la dépression spirituelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réponses positives de la part des gens. Non, Dieu s'intéresse à notre réconfort, frères et sœurs. Dieu veut que nous vivions, que nous le servions avec confiance dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons un texte, nous avons un livre comme Psaume 22, et surtout nous avons un verset comme celui de verset 28. Et notre verset n'est pas unique. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui ressemblent, qui disent la même chose que verset 28 de Psaume 22. Mais voici le verset que nous allons méditer ce matin. C'est une promesse. C'est une promesse de la part du Seigneur. C'est une promesse de Dieu. Et la voici, verset 28. Tous les peuples de la terre, toutes les extrémités de la terre, se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. David, qui est l'auteur de ce psaume, il pense à l'avenir. Il pense au futur. Et ce matin, nous allons voir trois choses. Nous allons voir ce qui va arriver, alors que David, il voit l'avenir. Nous allons voir ce qui va arriver. Ça va être le point le plus long du message ce matin. Et puis, nous allons voir comment ça va arriver, ce qui va venir, comment ça va arriver, par quels moyens va-t-il arriver? Et le troisième point, c'est pourquoi ceci va-t-il arriver? Qu'est-ce qui garantit que cette chose va arriver? Premièrement, alors, ce qui va arriver. Ce qui va arriver. David, il regarde, il voit le futur. Il a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire 2000 ans en ce qui concerne. Il écrit, et David, il est en train de chanter ce psaume. Mais dans son fort intérieur, David, qui est l'auteur de l'Ancien Testament, il sait qu'il parle de quelqu'un d'autre. Il sait que le contenu de psaume qu'ils sont en train de chanter ne correspond pas exactement à sa situation. Alors, soyons clairs de ce que dit la Bible. Pour comprendre ce qui se passe dans le cœur, dans le fort intérieur de David, nous avons besoin de nous rappeler de ce que le Nouveau Testament dit au sujet des prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont écrit. Et écoutez bien ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre 1, versets 10 et 12. Et écoutez bien, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe dans le psaume 22. L'apôtre Pierre dit, inspiré par le Saint-Esprit, « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait, l'Esprit, d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. » La souffrance et la gloire dont elle serait suivie. « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. » C'était 1 Pierre 1, versets 10 à 12. Alors, voyez-vous ce qui est dit dans l'épître de Pierre. Les auteurs de l'Ancien Testament, d'accord, ont écrit au sujet, bien sûr, de leur situation, mais les auteurs de l'Ancien Testament savaient que ce qu'ils écrivaient était beaucoup plus profond que leur situation actuelle. Ils savaient, parce qu'ils avaient l'Esprit de Christ en eux, ils savaient que ce qu'ils écrivaient ne pouvait même pas saisir qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre, du futur, et que eux-mêmes pouvaient saisir. Leurs paroles n'étaient pas seulement pour eux-mêmes, mais était aussi pour les gens de leur époque. Mais ils savaient, les prophètes, que leurs paroles étaient aussi pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il écrivait au sujet de Christ, et l'apôtre Pierre nous dit, il écrivait au sujet des souffrances de Christ, puis la gloire dont elles seraient suivies. Et David, il est en train de traverser des moments terribles dans sa vie ici, d'accord? Et il a l'impression maintenant que Dieu l'a abandonné, et il commence à écrire et chanter ce psaume, psaume 22. Mais franchement, il y a des choses dans ce psaume, psaume 22, qui ne correspondent tout simplement pas à David. Il y a des choses qui se passent dans ce psaume que David n'a jamais vécues. On parle de la crucifixion d'Emma. David n'a jamais été crucifié. Il est en train d'écrire quelque chose d'infiniment plus grand que sa propre situation. Parce qu'il a l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ qui parle d'une autre expérience, d'une expérience de quelqu'un d'autre. À la fin de ce psaume, David est laissé avec la question suivante. Quand est-ce que ceci arrivera? Quand est-ce que ceci arrivera? Mais la promesse est là, du verset 28. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Vous êtes sans doute d'accord avec moi que psaume 22 est un psaume extraordinaire. Est un psaume extraordinaire. Il parle des souffrances physiques, corporelles, du Christ. Mais psaume 22 parle aussi des souffrances émotionnelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces souffrances internes, lorsque Jésus était suspendu sur la croix. Les détails de la crucifixion, de la mort et l'expérience de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Les détails de la crucifixion donnés mille ans avant que ceci arrive. La semaine dernière, j'ai eu quelqu'un au marché à Carcassonne. C'était un Syrien qui est ex-musulman et qui a tout laissé tomber. Il ne veut plus parler de la religion parce qu'il a vu ce qui s'est passé en des choses terribles en Syrie. Il a fermé son cœur à Dieu maintenant. Il ne veut plus rien entendre de Dieu. Et puis en lui présentant l'Évangile, il m'a dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire que la Bible est la vérité? C'est juste des paroles d'hommes. Et je lui ai cité, parce que je pensais au psaume 22 pour le message d'aujourd'hui, j'ai dit, mais écoute, je suis en train de préparer psaume 22, et franchement, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? 1000 ans avant la crucifixion de Jésus, les détails de la manière dont Jésus allait mourir et ce qu'il allait dire, ce qu'il allait expérimenter sur la croix. Les prophéties. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et voilà les détails. Regardez les détails de la mort de Jésus, de la croix. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus l'a dit à la croix. La raison pour laquelle Jésus l'a dit, c'est parce que justement, il a vécu ce que ça veut dire être séparé de son Père. Mais aussi, Jésus l'a dit pour attirer notre attention au psaume. Au psaume 22, tous ceux qui me voient, verset 8, psaume 22, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il a 1000 ans plus tard, c'est exactement ce qui est arrivé. Lorsque Jésus était crucifié sur la croix, devant la croix, il y avait des gens qui passaient, les Sadduciens, les pharisiens, ils jetaient leur insulte. C'était leur dernière manière, dernière façon de crucifier Jésus sur la croix. Lorsqu'ils l'ont crucifié entre deux brigands, c'était leur manière de dire, toi qui voulais passer des gens avec, que tu prenais plaisir à passer du temps avec des gens pécheurs, tu sais quoi, on va te donner ce privilège de mourir. Tu vas mourir parmi des criminels. Il se moquait de lui. Toi qui dis, je suis le Fils de Dieu, descends de la croix et ne croire en toi. Parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. 1000 ans avant ça. Les détails qui sont donnés. Verset 15, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Et c'est ce qui est arrivé au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on a amené Jésus à cette place qui s'appelle la crâne, la croix qui était par terre, on a mis le corps de Jésus sur cette croix qui était par terre et on a cloué les, les clous dans les mains, les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et puis on aurait pris la croix levée et à un moment on aurait jeté la croix dans le trou et à ce moment-là, tous les os du Seigneur Jésus-Christ seraient disloqués. Mais 1000 ans avant cela, David dit, il en parle. Ma force se dessèche, verset 16, comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et eux, ils observent. Ils me regardent. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il était nu. Dans les images aujourd'hui, on essaie de mettre des vêtements sur le corps. Mais savez-vous, frère, qu'il était nu, c'était leur manière de crucifier des criminels nus et tout le monde en train de regarder. Et voilà Christ, mort d'une mort honteuse, nu sur la croix. Et les gens sont en train d'observer. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, les détails qui ont été accomplis exactement à la lettre, extraordinaire. Et chaque fois ce psaume est cité dans le Nouveau Testament, chaque fois que ce psaume est cité dans le Nouveau Testament, l'auteur en question fait la référence. Il parle de Jésus-Christ comme l'accomplissement de Jésus-Christ. Et chaque fois ce verset, ce psaume, en fait, est mentionné et cité dans le Nouveau Testament, c'est pour parler de la souffrance et la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. La souffrance de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Mais si vous continuez la lecture du psaume 22, vous remarquerez qu'à partir du verset 23, il y a un changement du temps. Je pense que même les Juifs qui chantaient ce psaume à partir du verset 23, il y a même le temps qui change quand on chante, peut-être. Mais à partir du verset 23, il y a un changement de langage. On parle plus de l'humiliation, de la souffrance du Christ, mais on parle de la victoire. Parce que c'est ce que Pierre a dit, l'Esprit de Dieu qui agit dans les prophètes, c'est pour parler de la souffrance et la gloire dont elle serait suivie. Et psaume 22 est un exemple de ce qui est dit dans l'apôtre Pierre. La première moitié du psaume, c'est la souffrance. Mais la deuxième moitié, c'est la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 23, « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Et c'est accompli. C'est le Christ qui parle par la bouche de David. « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Comment est-ce que Christ a-t-il publié le nom de son Père parmi les nations? Je pense que la réponse se trouve dans le livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. À un moment, Paul écrivait aux Éphésiens qui étaient convertis. Il leur parlait de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et à un moment, il leur a dit, il parle de Jésus, il a dit, il, ça veut dire Christ, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Paul dit aux Éphésiens, aux chrétiens, que Christ était venu annoncer la paix pour les chrétiens à Éphèse. Mais voilà ma question. Est-ce que Jésus a visité Éphèse? Jamais. Jamais Jésus a mis les pieds à Éphèse. Alors quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a-t-il annoncé la paix aux Éphésiens? Réponse, lorsque l'apôtre Paul a prêché l'évangile, eh bien c'était Christ qui annonçait l'évangile à ces Éphésiens. Et c'est ce que Psaume est en train de dire. La victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je publierai ton nom parmi les frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je ne sais pas combien de nationalités sont représentées parmi nous ce matin. Et c'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, c'est que dans ton cœur, tu as le désir. Le Seigneur a mis ce désir de venir célébrer, mais d'autres frères et sœurs, ils ont le même désir. Qu'est-ce qui fait que, bien que nous venions des arrière-plans différents, de cultures différentes, et nous voici ensemble, nous avons le même désir de louer, d'adorer notre Dieu trinitaire? Eh bien, c'est l'Esprit de Christ qui met ce désir en nous, le louer, le célébrer ensemble. Et puis, il y a cette glorieuse promesse maintenant, ce qui va arriver. Toujours, David est en train de nous parler de ce qui va arriver. Et nous arrivons au verset 28, c'est une promesse Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles de la terre se prosterneront devant sa face. Ce verset dit-il que chaque personne dans le monde va être convertie? Ce verset dit-il que chaque personne à Toulouse, en Côte d'Ivoire, va être convertie? Bien sûr que non, parce qu'on a un livre d'à peu près 1000 pages, et ce livre de 1000 pages nous dit qu'il y a l'enfer et qu'il y a le ciel, et que tout le monde, malheureusement, ne va pas accepter la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est alors la promesse du verset 28 lorsqu'il est dit « Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel, toutes les familles de la terre se prosterneront devant sa face. » La promesse, frères et sœurs, c'est que dans chaque pays, dans chaque peuple qui existe sur terre, là où l'homme est trouvé, là où l'homme vit, il y aura toujours parmi ces peuples des gens qui se tourneront vers le Seigneur et qui deviendront ses adorateurs. Dans chaque nation, dans chaque tribu, dans chaque pays, il y aura toujours, dit le Seigneur, il y aura toujours ceux et seuls qui entendront l'Évangile qui, par ma grâce, viendront à moi et deviendront mes adorateurs. Pensez-y, frères et sœurs. Il y a quelques mois, on a eu la visite d'un couple qui travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la jungle, des gens qui étaient des animistes, vraiment des gens qui mangeaient des autres êtres humains. Et les missionnaires sont arrivés, ils ont annoncé la bonne nouvelle, et ce couple de missionnaires nous ont montré ce que l'Évangile a fait dans les cœurs de plusieurs. Juste incroyable. Il y a quelques mois, j'étais dans une conférence en Angleterre, et il y a un missionnaire qui est très âgé. Il nous parlait de son expérience en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a dit il y avait une tribu qui s'est convertie, qui sont tournées vers le Seigneur. Et puis, il y avait une réunion d'études bibliques et lui, il était en train de parler. Et pendant qu'il parlait, il y avait un homme âgé qui était chrétien, un des chefs de tribu. Il est venu, il est en train de toucher la prédicateur, le missionnaire, comme ça, vraiment bizarrement. Et puis, l'homme âgé s'est assis. Et à la fin de la réunion, le missionnaire, il a demandé à notre chrétien, m'a dit, mais pourquoi est-ce que cet homme est venu me toucher comme ça, vraiment bizarrement? Et l'homme a répondu, il a dit, il mangeait des hommes avant. Il n'a pas oublié cette habitude juste pour voir quel type de chair tu avais. Et c'est une habitude qu'il a gardée, bien sûr. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas mangé? Pourquoi ne l'a-t-il pas mangé? Parce que l'Évangile a fait quelque chose dans la vie de cet homme. La promesse est là, frères et sœurs. La promesse est là. Il y a des régions en Afrique, en Brésil, la Chine, où les gens se tournent en nombre vers le Seigneur, ce qui se passe parmi le monde musulman aujourd'hui. Il y a même des chrétiens en Arabie Saoudite aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu es chrétien, si tu es saoudien et tu tournes au Seigneur Jésus-Christ, tu peux être sûr, si tu vis là-bas, que tu perds ta vie. Et pourtant, il y a des chrétiens, frères et sœurs, là-bas. En Corée du Nord, il y a beaucoup de chrétiens emprisonnés, mais qui sait combien d'autres, même dans les pays très fermés à l'Évangile. Parce que la promesse du verset 28 est là, frères et sœurs. C'est une promesse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Des nations ont eu leur moment. Où est le communisme? Des gens qui se croyaient des rois de ce monde, où sont-ils? Mais la promesse du verset 28 est toujours là. Et elle sera toujours là, frères et sœurs, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. À quoi comparons-nous le royaume de Dieu, Jésus dit? C'est une question que Jésus a posée. À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Pensez à une graine de moutarde, Jésus dit. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences, de toutes les semences qui sont sur la terre. Humainement parlant, c'est ridicule. C'est rien. Mais, Jésus continue, mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe des grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et chaque fois que cette image des oiseaux du ciel est utilisée dans la Bible, c'est pour parler des païens, c'est pour les non-juifs, d'accord? Le royaume de Dieu est comme ça. Aux yeux des hommes, c'est rien du tout. Mais parce que la promesse du verset 28 est toujours là. Lorsque le Seigneur bénit cette semence, des petits commencements se transforment en quelque chose de grand et d'infiniment significatif. Les oiseaux du ciel habitent sous son ombre. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous avons justement cette image du verset 28 de psaume 22. Au ciel, c'est un verset qui nous a été lu dans l'introduction, nous avons un aperçu du ciel dans le livre d'Apocalypse. Des âmes de ceux et celles qui sont morts, des chrétiens qui sont morts, et ils sont autour de l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ, autour de son trône. Ils sont en train de chanter ses louanges, en train de l'adorer pour son œuvre pour eux. Et voilà ce qu'ils ont chanté. Voilà ce qu'ils chantent. C'est pas ennuyeux d'être au ciel, frères et sœurs. Très souvent, on pense que lorsqu'on meurt et on pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire au ciel? Il n'y a rien à faire. Non, non, non. Tu vas être occupé tout le temps. Et une des choses que tu vas faire, c'est que tu vas servir le Seigneur et tu vas chanter ses louanges. Et chaque fois, ce qui va t'aider à l'adorer, à le louer, c'est les marques des clous, les mains et les pieds. Et le Seigneur va les porter éternellement comme un symbole, quelque chose de visuel qui va nous aider, frères et sœurs, à le louer continuellement pour son œuvre pour nous. Et voilà ce qu'il chante. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, verset 9. Et alors, quelle est la promesse du verset 22, du verset 28 de psaume 28? Quelle est cette promesse? Que va-t-il arriver? Il y aura une diffusion de l'évangile à l'échelle mondiale et il y aura toujours des conversions parmi tout peuple, toute nation, frères et sœurs. Il y aura toujours des conversions jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La prochaine fois que tu es découragé, rappelle-toi de cette promesse. Et franchement, c'est une promesse qui m'aide à persévérer dans mon témoignage. Le terrain est dur, mais je sais qu'il y aura des conversions jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui promet ceci. Et ceci remplira ton cœur d'optimisme et d'attente et surtout du désir d'annoncer l'évangile aux autres autour de nous. Parce que le Seigneur nous a laissé cette promesse. Il y aura toujours des conversions. Tout le monde ne va pas se convertir, mais il y aura ceux et seuls qui, lorsqu'ils entendent l'évangile, ils vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui va arriver. Deuxième question, et je vous garantis, je vous assure, les deux derniers points vont être plus courts que le premier. Mais comment ceci va-t-il arriver? Ça, c'est la promesse. Les nations se tourneront vers le Seigneur, mais comment ceci va-t-il arriver? De quelle manière? Ben, regardez, la réponse est toujours dans le verset 28. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Mais se souviendront de quoi? Eh bien, se souviendront exactement du contenu de ce psaume, la première partie de ce psaume. Il en a déjà parlé, c'est justement pourquoi c'est vers la fin qu'il dit qu'il y aura des conversions. Et voilà la manière dont ils seront convertis, c'est parce qu'ils vont entendre au sujet de la souffrance et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'idée ici, c'est qu'ils se souviendront. Il s'agit de la croix et de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et la promesse est qu'il y aura des millions de personnes qui vont entendre le message de l'évangile, le message de la croix, ce que Jésus a subi sur la croix pour les pécheurs, et le fait que, justement, par la croix, il a vaincu le mal, le péché, Satan lui-même. et des gens des quatre coins du monde, il y aura ceux et seuls qui ne pourront tout simplement pas se débarrasser de ce message. Ce message va les troubler. Ils ne pourront tout simplement pas oublier ce message. Un pasteur m'a raconté récemment que un jour, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte de sa maison et c'est quelqu'un qui fréquentait l'église et qui avait vraiment un passé très très dur, très dur. Et puis le jeune homme, il dit au pasteur: pasteur, je suis vraiment troublé, j'ai besoin de vous. Et le pasteur lui dit: viens rentre, il faut qu'on discute alors. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis le jeune homme, il lui dit: pasteur, il y a quelque chose d'horrible qui m'arrive. Et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je n'arrive pas à me débarrasser du message de la croix, il lui dit. Comme ça. Je n'arrive pas à me débarrasser de la souffrance de Christ à la croix. Et c'est un grand problème que j'ai. Et le pasteur lui dit: mais je vois aucun problème, c'est une bonne nouvelle en fait. Mais attends pasteur, le pire, tu n'as pas entendu ce qui est pire. Le pire, c'est que je crois qu'il l'a fait pour moi. C'est un homme converti, n'est-ce pas? Et c'est ce que Psaume 22, verset 28 nous dit, c'est qu'il y aura des gens, des hommes et des femmes qui ne pourraient tout simplement pas se débarrasser de ce message. Ils vont entendre, ils vont être affectés par ce message. Le message de la croix ne laisserait pas tranquille certaines personnes. Ils se souviendront de l'Éternel. La prédication de la croix va être une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, elle est une puissance de Dieu. Très souvent, les gens me disent, et je vais essayer de le faire cet après-midi, très souvent nous disent: si, Hicham, si tu as un conseil à nous donner dans notre témoignage parmi les musulmans, que serait-il? Et mon conseil serait la chose suivante. Prie le Seigneur de renouveler ta confiance dans l'Évangile. Et franchement, aujourd'hui, nous avons vraiment perdu cela. Nous avons vraiment perdu. Nous proclamons ce message, mais dans mon propre cœur, j'ai perdu cette confiance que c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Alors, on cherche à rajouter quelque chose au message de l'Évangile parce que nous avons perdu nous-mêmes confiance en l'Évangile. Que le Seigneur nous renouvelle cette confiance. Nous avons un message, le seul message, frères et sœurs, capable de transformer des vies. Que va-t-il arriver? Il y aura toujours des conversions. Voilà le futur du christianisme. Il y aura toujours des conversions, dit Jésus, jusqu'à ce que je revienne. Comment ces conversions vont-elles arriver? Eh bien, les gens vont entendre le message de l'Évangile. Il faut que quelqu'un leur parle du message de l'Évangile. Et c'est seulement lorsque les gens entendent, se souviennent des souffrances, de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit va faire quelque chose dans leur cœur. Mais qu'est-ce qui garantit que ceci arrivait? Quel est le saut? Quel est le... La preuve, quelle est la garantie? Qu'est-ce qui garantit que ces conversions, que même lorsque j'annonce l'Évangile, que même lorsque je parle de la souffrance et la victoire du Seigneur, va-t-il? Qu'est-ce qui garantit ces conversions? Qu'est-ce qui rend ceci possible? Et si vous regardez la fin du psaume 22, vous comprendrez qu'est-ce qui garantit? Qu'est-ce qui rend les conversions possibles? Vous lirez à la fin du psaume 22, regardez si vous avez vos Bibles, il dit: la postérité lui rendra un culte, on parlera du Seigneur à la génération. Voilà, il faut que quelqu'un parle à la génération. Et c'est ce que les jeunes vont faire en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous devons faire autour de nous. Personne n'est converti, c'est ce qu'on a regardé dans la vidéo avec les enfants. Quelqu'un doit leur parler. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car, je sais que il y a différentes versions, mais dans ma version, elle dit: car, ou bien parce que l'Éternel a agi. Dans d'autres traductions, il est dit: à cause de ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Qu'est-ce qui garantit qu'il y aurait des conversions? Car l'Éternel a agi. Et qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? C'est psaume 22. C'est encore une fois psaume 22. Quelque chose a été fait sur la croix. Quelque chose a été accompli. Quelque chose de très efficace a été fait sur la croix du calvaire. Quelque chose a été fait, a été accompli. Et c'est ce qui rend des conversions possibles. C'est ce qui garantit qu'il y aura toujours des conversions. Parce que l'Éternel l'a fait, littéralement dit. L'a fait. Tout est accompli, Jésus dit, lorsqu'il était sur la croix. Pensez-vous, frères et sœurs, que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu viendrait et qu'il mourrait sur la croix et que ce qu'il a fait n'aurait pas de fruit? Pensez-vous que c'est vrai? Pensez-vous que c'est possible que Jésus donne sa vie et puis il n'y aura pas de futur d'avenir pour le christianisme? Impossible. Impossible. Pensez-vous, frères et sœurs, que Jésus donne une promesse qu'il y aura toujours des conversions et puis il se dit, tiens, je ne peux pas vraiment maintenir ma promesse parce que l'homme est dur. Pensez-vous que c'est possible? Pensez-vous que c'est possible que le Seigneur Jésus ressuscite des morts? Il est assis à la droite du Père et puis il est déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de conversions. Pensez-vous que c'est vrai que Jésus puisse être déçu après sa victoire sur la croix? Non? Impossible. Et personne n'est sauvé? La croix de Jésus-Christ était planifiée dans l'éternité, accomplie dans le temps prévu. Et grâce à cela, parce que le Seigneur a agi, a accompli quelque chose sur la croix, qu'il y aura toujours des conversions jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ est mort à leur place. Il a pris la colère de Dieu que ses pécheurs méritent. Et grâce à ce qu'il a fait pour les pécheurs, il les ramène vers lui. Il les réconcilie avec le Père. Il les rachète par sa propre vie. Il les sauve. Et le Seigneur a ses brebis partout dans ce monde. Que va-t-il arriver? Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Par conséquent, frères et sœurs, nous devrions vivre notre vie chrétienne à la lumière de cette promesse, dans l'attente en l'Éternel, dans l'optimisme. Comment ceci va-t-il arriver? Tous les peuples de la terre se souviendront. Alors nous devons annoncer l'Évangile. Parce que, à moins qu'ils entendent, frères et sœurs, il n'y aura pas de conversion. Pourquoi ceci arrivera-t-il? Qu'est-ce qui le garantit? Parce que l'Éternel a agi. L'Éternel l'a fait. C'est accompli. Et notre confiance en l'Éternel doit être renouvelée, frères et sœurs. Prions ensemble. Père Céleste, nous reconnaissons devant toi combien nous sommes vraiment lents à comprendre le poids et la nature extraordinaire des vérités de ta parole. Seigneur, nous te supplions de renouveler notre confiance en l'Évangile et que tu nous aides à vivre notre vie chrétienne, courir notre course chrétienne et de la vivre sachant que tu as encore un peuple à travers le monde. Et ainsi, Seigneur, que tu nous aides à vivre notre vie chrétienne, proclamant cette bonne nouvelle, le message de l'Évangile, de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les souffrances, mais merci pour la victoire de notre Seigneur. Merci de ce qu'en lui, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux et celles qui ont placé leur confiance dans la repentance, en ce que Christ a accompli pour eux. Seigneur, aide-nous à vivre notre vie chrétienne à la lumière du psaume 22 qui nous rappelle ce que Jésus a subi à notre place. Merci de ce que lui qui n'a point connu du péché, Père, tu l'as fait devenir péché pour nous afin que nous, les pécheurs, qui méritions ta colère, nous soyons justifiés en lui. À lui soit la gloire. Amen.